Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Deuxième épisode.
Deux jours après la noce, monsieur et madame Charles arrivèrent à Tôtes. Les voisins se mirent aux fenêtres pour voir la nouvelle femme de leur médecin. Nastasie, la vieille bonne, se présenta, s'excusa de ce que le dîner n'était pas prêt et engagea madame en attendant à prendre connaissance de sa maison. Emma monta dans les chambres. La première n'était point meublée. Mais la seconde, qui était la chambre conjugale, avait un lit d'acajou dans une alcôve à draperie rouge. Une boîte en coquillage décorait la commode, et sur le secrétaire, près de la fenêtre, il y avait dans une carafe un bouquet de fleurs d'oranger noué par des rubans de satin blanc. C'était un bouquet de mariée, le bouquet de l'autre. Elle le regarda. Charles s'en aperçut, il le prit et l'alla porter au grenier, tandis qu'assise dans un fauteuil, Emma songeait à son bouquet de mariage qui était emballé dans un carton et se demandait, en rêvant, ce qu'on en ferait si par hasard elle venait à mourir. Elle s'occupa les premiers jours à méditer des changements dans sa maison. Elle fit coller des papiers neufs, repeindre l'escalier et faire des bancs dans le jardin. Elle demanda même comment s'y prendre pour avoir un bassin à jet d'eau avec des poissons. Enfin, son mari, sachant qu'elle aimait à se promener en voiture, trouva un boc d'occasion qui, ayant une fois des lanternes neuves et des garde-crottes en cuir piqué, ressembla presque à un tilbury.
Ce n'est que moi, Emma, n'aie pas peur.
Tu es déjà rentrée ?
Oui. J'ai écourté mes visites. Tu me manquais trop.
Il était donc heureux et sans souci de rien au monde. L'univers, pour lui, n'excédait pas le tour soyeux de son jupon. Il ne pouvait se retenir de toucher continuellement à son peigne, à ses bagues, à son fichu. Quelquefois, il lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche et elle le repoussait à demi souriante et ennuyée comme on fait à un enfant qui se pend après vous. Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'était pas venu. Il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Lorsqu'elle avait eu 13 ans, son père l'avait mise au couvent. Loin de s'ennuyer les premiers temps, elle se plut dans la société des bonnes sœurs. Elle s'assoupit doucement à la langueur mystique qui s'exhale des parfums de l'autel, de la fraîcheur des bénitiers et du rayonnement des cierges. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait travailler à la lingerie. Elle prêtait aux grandes, en cachette, quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêt sombre, trouble du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes. Pendant 6 mois, à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'éprit de choses historiques, rêva à bahuts, salles des gardes et ménestrels. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Les bonnes religieuses s'aperçurent avec de grands étonnements que Mademoiselle Rouault semblait échapper à leurs soins. Quand son père la retira de pension, on ne fut point fâché de la voir partir. La première fois que Charles vint au Bertaux, elle se considérait comme fort désillusionnée, n'ayant plus rien à apprendre, ne devant plus rien sentir. Mais l'anxiété d'un état nouveau, ou peut-être l'irritation causée par la présence de cet homme, avait suffi à lui faire croire qu'elle possédait enfin cette passion merveilleuse qui jusqu'alors s'était tenue comme un grand oiseau au plumage rose planant dans la splendeur des ciels poétiques. Et elle ne pouvait s'imaginer à présent que ce calme où elle vivait fût le bonheur qu'elle avait rêvé. Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses, mais comment dire, un insaisissable malaise qui change d'aspect comme les nuées, qui tourbillonne comme le vent. Les mots lui manquaient donc, l'occasion, la hardiesse. Si Charles l'avait voulu cependant, s'il s'en fût douté, si son regard une seule fois fut venu à la rencontre de sa pensée, il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur. Mais à mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il la croyait heureuse. Elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait.
Tu entends comme elle joue bien? Tout le village me le dit, tu sais.
C'est bien, Charles. Mais est-ce qu'elle t'aide à la maison?
Oui, mère. Elle sait les bonnes tournures pour envoyer les factures aux malades. Et quand on a du monde le dimanche, le déjeuner est toujours parfait. L'autre jour, elle a servi des reines Claude dressées en pyramide sur des feuilles de vigne.
Mmh. Et pour la dépense? Je trouve que le bois, le sucre et la chandelle filent comme dans une grande maison ici. Est-ce bien raisonnable? Il faut apprendre à ne pas vivre au-dessus de ses moyens.
Charles ne savait que répondre. Il respectait sa mère et il aimait infiniment sa femme. Il considérait le jugement de l'une comme infaillible et cependant il trouvait l'autre irréprochable. Quand Madame Bovary était partie, il essayait de hasarder timidement et dans les mêmes termes une ou deux des plus anodines observations qu'il avait entendu faire à sa maman. Emma, lui prouvant d'un mot qu'il se trompait, le renvoyait à ses malades. Cependant, d'après des théories qu'elle croyait bonnes, elle voulut se donner de l'amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu'elle savait par cœur de rimes passionnées et lui chantait en soupirant des adagios mélancoliques. Mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu'auparavant, et Charles n'en paraissait ni plus amoureux ni plus remué. Quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son cœur sans en faire jaillir une étincelle, incapable, du reste, de comprendre ce qu'elle n'éprouvait pas, comme de croire à tout ce qui ne se manifestait point par des formes convenues, elle se persuada sans peine que la passion de Charles n'avait plus rien d'exorbitant. Ses expansions étaient devenues régulières, il l'embrassait à de certaines heures, c'était une habitude parmi les autres et comme un dessert prévu d'avance après la monotonie du dîner.
Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée?
Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant. Tels qu'ils étaient sans doute, ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du couvent. Que faisait-elle maintenant, à la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal. Elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord. Et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur.
Emma ! Emma, je t'emmène au bal chez le marquis d'Andervilliers.
Un bal ? Comment ?
Le marquis est venu remercier pour les boutures de cerisier qu'on lui a envoyées. Et comme il me parlait du jardin en fleurs de la Vaubyessard, il a regardé le nôtre par la fenêtre et il t'a aperçu. Je crois que tu lui as plu.
Ne dis pas de bêtises.
Il a dit que tu étais charmante et juste après, il nous a invités à son bal.
Un bal chez le marquis ?
Oui. Cela te fait plaisir ?
Oui.
Un mercredi, à 3h, monsieur et madame Bovary, montés dans leur boc, partirent pour la Vaubyessard. Ils arrivèrent à la nuit tombante, comme on commençait à allumer des lampions dans le parc afin d'éclairer les voitures. À 7h, on servit le dîner. Les invités, ensuite, montèrent dans leur chambre s'apprêter pour le bal. Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d'une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux d'après les recommandations du coiffeur et elle entra dans sa robe de barège. Le pantalon de Charles le serrait au ventre.
Les sous-pieds vont me gêner pour danser.
Danser ?
Oui.
Mais tu as perdu la tête, on se moquerait de toi. Reste à ta place. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin. Laisse-moi ! Tu me chiffonnes.
Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque, son cavalier la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Mais bientôt l'émotion disparut et se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon qui jouait seul quelquefois quand les autres instruments se taisaient. Puis tout reprenait à la fois, le cornet à piston lançait un éclat sonore, les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient et frôlaient, les mains se donnaient, se quittaient, les mêmes yeux s'abaissant devant vous revenaient se fixer sur les vôtres.
On m'appelle le vicomte. Et vous ? Quel est votre nom ?
Madame Bovary.
Eh bien, madame, j'espère que vous m'accorderez une valse tout à l'heure.
Je ne sais pas valser, monsieur le vicomte.
L'air du bal était lourd. Les lampes pâlissaient. Un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres. Au bruit des éclats de verre, madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous les pommiers. Et elle se revit elle-même, comme autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière. Et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là, puis autour du bal, il n'y avait plus que de l'ombre étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au marasquin qu'elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil et fermait à demi les yeux, la cuillère entre les dents.
Venez, madame, je vous guiderai.
Mais je...
Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient. Tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma par le bas s'érifflait au pantalon. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle, elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait, elle s'arrêta. Ils repartirent et d'un mouvement plus rapide, le vicomte, l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber et, un instant, s'appuya la tête sur sa poitrine. Et puis, tournant toujours, mais plus doucement, il la reconduisit à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux. Le lendemain après le déjeuner, les époux Bovary firent leur politesse au marquis et repartirent pour toutes. Quand ils arrivèrent chez eux, le dîner n'était point prêt. Madame s'emporta. Nastasie répondit insolemment.
Partez ! C'est se moquer ! Je vous chasse !
Cela fait plaisir de se retrouver chez soi. Que tu l'as renvoyée pour tout de bon ?
Oui. Qui m'en empêche ?
La journée fut longue le lendemain. Comme le bal déjà lui semblait loin, qui donc écartait à tant de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui? Son voyage à la Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage en une seule nuit creuse quelquefois dans les montagnes. Ce fut donc une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal. Toutes les fois que revenait le mercredi, il se disait en s'éveillant, « Ah, il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, j'y étais. » Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire, elle oublia l'air des contredanses, elle ne vit plus si nettement les livrées et les appartements. Quelques détails s'en allèrent, mais le regret lui resta.
Le vicomte... Peut-être à Paris maintenant, là-bas. Paris. Paris.
Pour remplacer Nastasie, Emma prit à son service une jeune fille de 14 ans, Félicité. Elle lui interdit les bonnets de coton, lui apprit qu'il fallait vous parler à la troisième personne, apporter un verre d'eau dans une assiette, frapper aux portes avant d'entrer, et à repasser, à empeser, à l'habiller. Voulut en faire sa femme de chambre. Emma devenait difficile, capricieuse. Elle se commandait des plats pour elle, n'y touchait point. Un jour ne buvait que du lait pur, et le lendemain des tasses de thé à la douzaine. Souvent, elle s'obstinait à ne pas sortir, puis elle suffoquait, ouvrait les fenêtres, s'habillait en robe légère.
Qu'est-ce que je vais faire ? Étudier le piano ? Mais pourquoi jouer ? Puisque personne ne m'entend, à quoi bon s'ennuyer à étudier ? Le dessin ? La tapisserie ? La couture ? À quoi bon ? La littérature ? J'ai tout lu.
Le printemps reparut. Elle eut des étouffements aux premières chaleurs. Dès le commencement de juillet, elle compta sur ses doigts combien de semaines lui restaient pour arriver au mois d'octobre, pensant que le marquis d'Andervilliers, peut-être, donnerait encore un bal. Mais tout septembre s'écoula sans lettre ni visite. Après l'ennui de cette déception, son cœur de nouveau resta vide, et alors la série des mêmes journées recommença. Elles allaient donc maintenant se suivre ainsi à la file, toujours pareilles, innombrables et n'apportant rien. L'avenir était un corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée.
Entrez. Charles Bovary, qu'est-ce qui vous amène à Rouen?
Je suis venu vous consulter. C'est pour... C'est ma femme.
Que se passe-t-il?
Je ne sais pas. Rien ne va. Certains jours, elle bavarde, beaucoup même. Et puis, d'un coup, elle pâlit. Elle a des battements de cœur et elle reste ensuite sans parler et sans bouger. Il n'y a que l'eau de Cologne sur les bras qui la sort de sa torpeur.
A-t-elle perdu du poids?
Oui.
C'est une maladie nerveuse. Il faut la changer d'air.
Vous voulez dire déménager?
Il en coûtait à Charles d'abandonner Pau après 4 ans de séjour et au moment où il commençait à s'y poser. Après s'être tourné de côté et d'autre, Charles apprit qu'il y avait dans l'arrondissement de Neuchâtel un fort bourg nommé Yonville-l'Abbaye dont le médecin, qui était un réfugié polonais, venait de décamper la semaine précédente. Alors il écrivit au pharmacien de l'endroit pour savoir quel était le chiffre de la population, la distance où se trouvait le confrère le plus voisin, combien par année gagnait son prédécesseur, etc. Et, les réponses ayant été satisfaisantes, il se résolut à déménager vers le printemps si la santé d'Emma ne s'améliorait pas. Un jour, qu'en prévision de son départ, elle faisait des rangements dans un tiroir, elle se piqua les doigts à quelque chose. C'était un fil de fer de son bouquet de mariage. Les boutons d'oranger étaient jaunes de poussière et les rubans de satin, alizés d'argent, s'effiloquaient par le bord. Elle le jeta dans le feu. Il s'enflamma plus vite qu'une paille sèche. Puis ce fut comme un buisson rouge sur les cendres et qui se rongeait lentement. Elle le regarda brûler. Les petites baies de carton éclataient. Les fils d'archal se tordaient, le galon fondait, et les corolles de papier, racornies, se balançant le long de la plaque comme des papillons noirs, enfin s'envolèrent par la cheminée. Quand on partit de Tôte, au mois de mars, Madame Bovary était enceinte.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. Deuxième épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Myriam Azinko, Clément Morinière, Myrène Astré, Christophe Audan, Peggy Martineau.
Musique originale et piano, Mathieu Lambollet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillot. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Manuel Couturier, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff. Remerciements à Jacques et Véronique Verlet pour leur accueil amical.